Salut tout le monde.
Bonsoir, si jamais vous écoutez ça le soir.
Et coucou.
Du coup, bienvenue dans la deuxième émission de Meuf à Tub pour encore plus de meufs et encore plus de tub. Alors, je pense qu'on aimerait toutes remercier les retours qu'on a eus. Qu'est-ce que vous en pensez, l'équipe ?
Ah oui, oui,
totalement,
oui.
Ouais.
Du coup, on a eu des retours trop bien sur la dernière émission. Franchement, ça faisait trop plaisir. Ça nous a donné la méga patate pour continuer le podcast, ce qui était prévu, mais avec deux fois plus de fun maintenant. C'était doux, c'était tendre. Vraiment, merci à vous. Aujourd'hui, oui.
Je pense en fait, on ne s'attendait pas à autant de retours et aussi positifs. Donc vraiment, enfin, je crois qu'on a toutes plusieurs fois chialé en vous lisant, parce que vraiment, en lisant que vous avez vous-même chialé en nous écoutant. Donc c'était assez drôle, ça fait un cercle de l'alarme. Voilà.
Sur cette seconde émission, le thème est un peu différent naturellement, puisque cette fois, on va parler des relations à notre corps et de leurs évolutions au sein de la transition, et notamment de la transition hormonale. C'est bien ça notre sujet, c'est ça ?
Oui, oui, c'est bon, tu te souviens bien de notre sujet.
Yeah !
Bravo !
Allez, let's go ! Du coup, pour cet épisode, on a une invitée qui n'est pas seulement spéciale, mais également incroyable. Je laisse Corée Perséphone se présenter elle-même.
Donc bonjour, moi c'est Corée Perséphone, je suis principalement bénévole dans une association LGBT à Reims qui s'appelle Execo. J'ai cofondé un petit groupe de parole qui s'appelle Parole Trans à Reims, c'est toujours. Et je suis aussi assez présente sur Twitter, avec un compte, disons, militant. Voilà.
D'accord, merci Corée. Du coup, si je ne me trompe pas, tu es là aujourd'hui parce que tu avais envie de, je présume, parler avec nous et puis mettre sur un peu, le, entre guillemets, à notre échelle, le devant de la scène. Ce que tu as pu voir et ce que tu as envie de dire. Mais tu es aussi là parce que tu as une expérience de transition qui est plus longue que nous, plus conséquente, et que du coup, ça te donne un recul peut-être plus important sur le sujet qu'on a choisi aujourd'hui, c'est ça ?
Exactement.
Super. Du coup, je rappelle rapidement que, encore une fois, ce podcast n'a pas vocation à généraliser ou à donner des éléments pour la vie d'autrui. On ne fait que présenter nos vies à nous, nos vécus, et les mettre en contexte, en rapport les uns avec les autres. Du coup, je rappelle le principe de l'émission, qui est que nous allons chacune lire un texte, puis il y aura un temps de discussion, et de texte en texte, on arrivera jusqu'à la fin de l'émission, où avant de nous quitter, n'oubliez pas qu'il y a les témoignages des autres transfemmes que nous avons décidé de recollecter et de publier également. On va donc passer, si vous le voulez bien, si vous le voulez bien les filles aussi, au premier texte, qui est celui de Cléo.
Ok, si du coup je veux pas, on fait quoi ?
Eh bien, on annule le podcast. Bruit de Windows qui s'éteint.
Non, mais c'est bon, je peux bien, je voulais juste embêter un peu, mais ça passe, ça va le faire.
C'est vrai ? On peut faire continuer ?
Oui, t'as mon autorisation, c'est
oui.
Bon.
Allez, Cléo, au boulot.
Donc, je vais d'abord vous lire mon texte sans plus d'introduction et on verra. On en parlera plus après parce que j'ai mis un petit peu mon cœur et mon expérience là-dedans. Je pense que ça a parlé de soi-même. Je crois que le premier grand changement dans ma relation à mon corps, ça a été mon questionnement de 2021. De février à mai, j'avais intégré que j'étais trans. Je pensais avoir un genre fluide, puis plus précisément bigenre, c'est-à-dire aussi entre seulement deux genres. Dans mon cas, c'était entre homme ou femme. Et plus je me suis rapproché de mai-juin 2021, plus la probabilité d'être une femme trans semblait grandir et devenait évidente, en fait. Dans ce laps de temps, j'ai compris beaucoup de choses sur mon rapport à mon corps, en expérimentant plein de trucs avec une main aussi maladroite que craintive, mais aussi j'ai fait une première réalisation, c'est que je n'arrivais pas à me visualiser moi-même de l'extérieur. C'est sûr qu'avoir une mauvaise mémoire des visages n'a pas aidé, mais autre chose était là, une indifférence face à mon reflet dans le miroir. Sur ce point, je pense que cette expérience du reflet est commune à beaucoup d'entre nous. Le miroir, c'est terrorisant. En fait, mon indifférence cachait une espèce de peur, de révulsion face à ce que je voyais. Le plus déroutant dans ce questionnement, c'était de ne pas ressentir de la dysphorie. Parfois, je m'appréciais, et alors je me sentais invalide de me dire trans. Je sais que j'ai été perdu par ça, me disant que je n'étais pas si trans si j'arrivais parfois à m'apprécier. Mais on n'a pas besoin de se sentir mal ou misérable pour être trans. On peut juste sentir qu'on pourrait être plus heureux autrement. Et c'est déjà énorme, et déjà plus tristesse comme expérience. Chez moi, la dysphorie n'est venue qu'après m'être rendu compte que j'étais une femme. Et encore bien plus après, lorsque j'ai commencé les hormones. Avant, je n'en avais jamais véritablement ressenti, ou en tout cas, je n'ai jamais vécu comme de la dysphorie. Et on arrive un peu tardivement au cœur du sujet, ma relation à mon corps. La transidentité m'a permis de voir que j'avais un corps qui peut me plaire, un corps qui me fait envie, quelque chose de plus moi. Et pour ça, et sans injonction aux personnes n'en prenant pas, les hormones m'ont fait investir mon corps. Je peux évoluer avec mon corps, dans une forme de symbiose avec. Je vais aller un peu plus loin et évoquer la philosophie avec cette phrase de Merleau-Ponty. La conscience est l'être à la chose par l'intermédiaire du corps. Ce que ça veut dire, c'est que notre rapport au monde que l'on perçoit par tous nos sens, ce rapport-là passe par le corps. Et je ne vais pas sortir un truc du style « prenez soin de votre corps, blablabla », parce que ce serait une injonction. Ce que je veux dire, c'est qu'avec mon corps qui change, j'ai eu un nouveau rapport au monde. Un rapport plus beau, plus lumineux, des rapports sociaux, amicaux, platoniques, amoureux, sexuels, plus intenses. En fait, plus comme moi. Et sans injonction, j'espère que ça peut vous donner de l'espoir. Le changement, c'est se voir autrement. Mais c'est aussi voir le monde et les autres autrement. Ça prend du temps, mais c'est un sentiment qui donne une sensation de complétude.
Bien, écoute, comme d'habitude, merci pour ce partage qui est toujours aussi émouvant.
Ok, je voulais dire, en fait, ce que je trouve hyper intéressant dans ton texte, c'est le fait que tu parles du fait que, de par notre rapport au corps qui change, notre rapport au monde change. Et avant ton texte, j'avais jamais trop pensé aux choses sous cet angle, et en réalité, ça fait vraiment sens.
Et ben ça me fait plaisir que ça donne un accent plus.
Moi, ce qui me touche vraiment dans ce que tu dis, c'est ce côté de... Enfin, il y a un truc qui est pas très, qu'on n'évoque pas souvent, mais c'est un peu l'espèce de poétique de l'indifférence, de l'avant-transition, où tu es en mode « mais non, je ne vais pas aussi mal que dans les films sur les trans qui vont mal faits par les cis. Je m'en fous un peu, en fait. » Mais il y a beaucoup de choses qui font sens dans ce « je m'en fous un peu ». Et c'est toujours important et bien et salutaire de voir que d'autres gens les partagent et que c'est presque des fois fondamental, en fait, d'une forme d'expérience trans. Je ne sais pas ce que tu en penses, Corée. Comment toi, tu as vécu ton avant-transition?
J'ai commencé à me poser des questions sur ma transidentité au début des années 2000. Enfin, à proprement parler, je m'en posais avant, mais j'ai commencé à avoir accès à des informations. Et à l'époque, il y avait encore les fameux critères pour être trans. Et moi, je ne me reconnaissais pas du tout dedans, quoi, en fait. J'ai jamais fait de... Enfin, c'était, fallait vraiment être désespérée, fallait être malheureuse, enfin bref, plein de choses comme ça. Et je ne me reconnaissais pas forcément là-dedans. Je n'étais pas super heureuse, mais pas non plus hyper malheureuse. Et au final, ces critères, moi, ils m'ont fait beaucoup de mal. Et je trouve que c'est bien qu'aujourd'hui, on puisse comprendre que il n'y a pas, comment dire, on peut être trans de plein de manières différentes et qu'elles sont tout aussi valables les unes que les autres. Et c'est hyper important, ça. Et que c'est pas forcément un truc malheureux, qu'on n'est pas des gens qui passent leur temps à être malheureux. Et que, oui, ça peut aussi être une belle expérience et quelque chose de joyeux, en fait. C'est le but d'une transition, c'est quand même de se sentir mieux, quoi. C'est pas d'être encore plus malheureux après ou même aussi malheureux.
Ce que tu évoques donc, c'est que maintenant, et ce que te fait évoquer le texte de Cléo, il y a une pluralité un peu des vécus trans qu'il n'y avait pas forcément avant, où les critères étaient, si je comprends bien, vachement plus stricts, et il y avait finalement une façon d'être trans parce que c'était la façon qu'il fallait avoir pour pouvoir avoir les hormones en quelque sorte.
Exactement. Et c'était un gros problème pour moi. Plusieurs raisons. D'abord, je suis lesbienne, donc forcément, à l'époque, c'était encore partie des critères qui excluaient de toute possibilité de transition. Donc, la définition de trans, hein, c'était en gros, plus ou moins, hein, c'était une définition blanchardiste où on acceptait comme trans uniquement, entre guillemets, des homosexuels refoulés.
Ouais.
C'est un peu ça. Et du coup, moi, j'étais pas dans cette situation-là, j'étais plutôt dans la situation inverse. Donc, c'était assez compliqué de me retrouver, par exemple, des témoignages que je pouvais voir. Hein, les quelques personnes trans qui passaient à la télé, c'était toutes des personnes hétéros. Jamais il y avait une femme trans lesbienne dans le...
Alors que c'est vrai que quand on regarde les statistiques aujourd'hui, c'est plus vraiment quelque chose de vrai, quoi. Enfin...
Exactement.
Et du coup, quand tu entends des vécus comme ça de personnes beaucoup plus jeunes et avec moins d'expérience, qu'est-ce que ça t'évoque? Enfin, tu fais des parallèles avec ce que toi, tu as pu vivre ou ça te paraît complètement différent? Enfin, comment tu ressens tout ça?
Faire des parallèles, oui, je pense que nécessairement, de toute façon, on fait toujours un peu des parallèles sur nos existences. même si c'est différent. Mais dans l'ensemble, moi, je trouve que c'est très positif. C'est quelque chose d'extrêmement important. Il faut qu'on montre qu'on est des gens très divers, variés. Je pense que ça libère aussi, c'est ce qui a contribué, je pense aussi, ces dernières années, à libérer beaucoup la parole. Il y a des personnes trans qui ont pu enfin se reconnaître, en fait. Alors que jusqu'à là, elles se posaient la question, ou elles n'avaient pas de visibilité sur des gens sur lesquels elles pouvaient se reconnaître un petit peu. On va toujours essayer de se reconnaître un peu pour savoir si vraiment on appartient à un groupe ou pas. Après, certes, c'est pas non plus, comment dire, on cherche pas un identique, quoi. On cherche juste des points communs.
Oui, alors qu'avant, il y avait vraiment cette politique de l'identique, en fait, si je comprends bien. Ouais.
Pour en revenir un peu au texte de Cléo, chose que je trouve intéressante et que finalement, je sais que dans mon texte, il y aura un peu ça, et je crois que dans le texte d'Aurégane aussi, il y a ce côté, en fait, que tu soulignes, c'est le fait que la dysphorie vient plus tard. Ouais. C'est que dans ton texte, la dysphorie est arrivée après la prise de réalisation, la prise de conscience, en fait. Mais du coup, ce que j'aime beaucoup dans ton texte, c'est le fait que tu centres sur le fait que on peut... En fait, effectivement, je trouve que ça fait un discours différent de celui qu'on nous vend encore en réalité. Ce que tu dis, Corée, c'est vrai, mais en fait, encore aujourd'hui, dans ce que j'appelle Cisland, donc l'endroit où il n'y a pas de personnes trans, où ils ne voient qu'à la télé, etc., les personnes trans, c'est encore un grand malheur, en fait. C'est encore, on a des vies misérables. Et du coup, d'avoir comme ça un témoignage qui est vraiment centré sur tous les côtés positifs que ça a eu sur ta vie, sur le changement de ton rapport au corps, je trouve que ça fait du bien, en fait, à entendre.
Oh. C'est vrai qu'on est toujours obligé de prendre un détour par la dysphorie, mais je trouve qu'on ne parlera jamais assez du positif, en fait.
C'est clair.
Ne serait-ce que parce que... Pardon, juste... Ne serait-ce que parce qu'en Cislandie, on n'a pas droit de ressentir du bonheur. Enfin, c'est pas conceptualisable des gens trans heureux.
Ouais, c'est clair. Et j'avoue, il y a quand même un truc dans mon année scolaire très chaotique et surtout très chaotique, mais il y a quand même des trucs bien, et du coup forcément je fais un petit clin d'œil à la fin de ce qu'on appelle la phénoménologie, et sans faire un cours dessus ou quoi, c'est juste que voir le prisme de notre vécu passe par notre corps, et nos connaissances aussi passent par notre corps, et ce qu'on aperçoit, enfin tous nos sens en fait passent par notre corps, donc en fait notre expérience du monde elle est forcément elle est ponctuée, elle est vue par le prisme de notre rapport à notre corps, et du coup il y a un peu une idée de vivre avec, mais voilà, il y a, je trouve qu'il y a un vrai objectif de du mieux-être, en fait. Enfin, moi ce que je l'expression que j'ai trouvée pour parler de mon vécu, pour parler de mon euphorie, c'était parler de mieux-être, en fait, à défaut d'avoir un mal-être qui me pousse à transitionner, c'est le fait que j'aperçois un mieux-être ailleurs, je ressens un mieux-être ailleurs ou autrement, et c'est vers ça que je tends, en fait. Et du coup, c'est progressif, et ça veut dire que chaque vécu est différent, en fait, parce que nos corps sont différents.
On voit même apparaître des fois des témoignages de gens trans qui disent n'avoir à aucun moment ressenti de la dysphorie. Mmh. Et je sais que ça fait beaucoup mal au cerveau à beaucoup de gens qui ne pensaient pas que c'était possible. Mais plus l'expérience de la transition se diversifie, et plus elle accepte de richesse, en fait. Donc, c'est des belles directions qui se dessinent, en pensant comme ce que tu dis que toi-même, tu as pensé.
Truc que je trouve aussi intéressant, c'est quand tu dis... Enfin, quand tu as un moment dans ton texte, tu as un doute de est-ce que tu es trans alors que des fois, tu t'apprécies. Et encore une fois, il y a tellement ce truc de... Comme le dit Aurégane, le fait d'avoir mis la dysphorie comme étant le critère de si on est trans ou pas, alors qu'en réalité... On pourrait parler du fait que en réalité il y a plein de façons d'être trans, mais la dysphorie, c'est un sentiment qui est difficile à mettre seulement dans une case de ce que c'est, et je pense qu'on peut être quand même trans et avoir déjà ressenti ce qu'on peut appeler de l'euphorie de genre, en fait. On peut s'apprécier, on peut apprécier sa vie et quand même être trans, en fait. Enfin, il y a pas vraiment, c'est le truc que je trouve ressort beaucoup de la conversation qu'on a, c'est le fait que il y a pas une checklist des malheurs qu'il faut qu'on ait de est-ce que tu pleures tous les soirs, est-ce que tu te regardes dans ton miroir et tu t'aimes pas, etc., pour être trans, en fait.
Les orphelins.e.s, Baudelaire, clairement. Bon, du coup, je pense que si ça vous convient, on peut passer au texte suivant. De toute façon, ce qui me rassure, c'est que j'ai l'impression qu'on n'a pas tout dit sur le texte de Cléo, mais qu'il y a beaucoup de reflets avec nos autres textes, et que du coup, on peut tout à fait passer au texte suivant, si ça vous convient.
Oui,
absolument.
Super. J'entends rien, plus fort.
Let's go!
C'est pas très radiophonique de crier dans
Voilà.
son micro, je précise,
Pardon.
hein.
Oui, mais c'est l'épisode 2, donc on a droit. Du coup, Corée, si tu as ton texte sous les yeux, tu peux commencer à le lire et puis on en discutera.
Tout d'abord, j'aimerais me situer, car il me semble important que vous sachiez d'où je parle et quel est mon contexte personnel. Je suis une femme trans de 44 ans, qui vit en province, de classe moyenne, et venant d'une famille ouvrière assez modeste. J'ai commencé une transition sociale, administrative et médicale il y a 5 ans, et je pense être arrivée là où je voulais aller à l'heure actuelle. Et bien entendu, ce témoignage m'est propre, n'est pas généralisable à l'ensemble des autres personnes trans. Très tôt dans mon enfance, j'ai pris conscience que mon identité de genre ne correspondait pas à celle qui m'avait été assignée à la naissance, même si je n'avais pas de mots pour l'exprimer, tout en étant consciente qu'on me classait parmi les garçons d'après mes organes génitaux. C'est sur cette incongruence entre mon identité de genre et celle que les autres m'avaient attribuée que s'est construit mon rapport à mon corps. Du fait que mon corps n'était pas le corps typique d'une fille de mon âge, mon rapport à mon corps était compliqué. Pour autant, je ne l'ai jamais détesté ni considéré que j'étais née dans le mauvais corps. J'aurais simplement préféré qu'il soit plus typique, parce que cela complique davantage la vie dans notre société. Lorsque j'étais enfant, j'étais très androgyne. On me demandait souvent si j'étais une fille ou un garçon. Il arrivait même qu'on le me perçoive comme fille. Mis à part ce qui concerne mes organes génitaux, mon rapport à mon corps était supportable. C'est avec la puberté que ça s'est compliqué davantage. Avec le développement des caractéristiques sexuelles secondaires. J'avais tendance à cacher mon corps sous des vêtements amples et je n'aimais pas du tout le montrer. Par exemple, j'ai toujours été très mal à l'aise dans les vestiaires ou lorsque je devais être en maillot de bain, à la piscine ou à la plage. La puberté a beaucoup amplifié ce malaise qui était déjà présent en moi. J'ai grandi dans les années 80 et 90 où les informations sur les transidentités étaient très rares et peu accessibles, surtout dans mon milieu social d'origine. Ouvrier et rural. Ce n'est qu'adolescente que j'ai commencé à entendre parler au travers d'émissions de télé sensationnalistes, et ce n'est que jeune adulte au début des années 2000 que j'ai pu avoir des informations plus complètes qui m'ont amené à me poser la question de ma possible transitude et de l'intérêt pour moi d'une transition. Mais la peur des conséquences sociales d'une transition, perte d'emploi, d'entourage amical et familial, la peur de ne pas avoir un passing suffisant pour pouvoir plus facilement me réintégrer socialement, ainsi que la difficulté d'accéder à une transition médicale m'ont poussé à abandonner cette idée. Dans les années qui ont suivi, mon rapport à mon corps ne s'est pas vraiment arrangé, notamment en raison d'une prise de poids. Me voir dans un miroir était devenu douloureux moralement. J'ai fini par faire comme si je ne m'y voyais plus. Une quinzaine d'années plus tard, pour diverses raisons, je me suis retrouvée à devoir faire mon coming out à des amis, puis à d'autres amis, et cela s'est très bien passé. À ce moment de ma vie, j'avais complètement renoncé à toute idée de transition, notamment par peur de mon éventuel passing par la suite. Mais une discussion avec ma meilleure amie m'a fait réfléchir et m'a amené à remettre ma transition en question. C'est en rejoignant un groupe de discussion de personnes trans que j'ai pas mal évolué sur mon rapport à mon corps et brisé les derniers verrous qui m'empêchaient d'envisager une transition. J'ai compris que toutes les femmes cis n'avaient pas les hanches plus larges que les épaules, n'avaient pas une ligne de cheveux basse, etc. Cela m'a beaucoup rassuré sur mon passing. Je me suis rendu compte que les éléments de mon corps que je pensais typiquement masculins étaient présents sur d'autres femmes cisgenres et j'ai pu envisager ma transition plus sereinement. Ce fut important dans mon cheminement. Si j'ai pu envisager de faire une transition, c'est en acceptant que mon corps ne serait jamais le corps typique d'une femme cis-dyadique, c'est-à-dire qui n'est ni trans ni intersexe. Et ce n'est pas grave. J'ai pu envisager une transition en me réconciliant avec mon corps, non en le détestant comme l'imaginent souvent les anti-trans. C'est ainsi que j'ai commencé ma transition médicale, par un traitement hormonal, parallèlement à une transition sociale en douceur. Ce passing qui m'inquiétait tant est en fait venu assez rapidement et sans que je m'en rende compte. Au final, la seule chirurgie que j'ai envisagée dans le cadre de ma transition médicale, dès le début, fut la vaginoplastie. Il s'est donc posé la question d'une part de mon rapport à mes organes génitaux, qui concentrait ce que j'appellerais, faute de mieux, ma dysphorie, Ai-je plus à y gagner qu'à y perdre ? D'autre part, il était important pour moi de bien connaître les limites de la technique chirurgicale pour ne pas en attendre plus ce qu'elle pouvait m'offrir. Enfin, le choix du chirurgien était lui aussi important, non seulement en fonction de sa maîtrise de la technique, mais aussi du contact humain. Après y avoir réfléchi longuement, j'ai fini par faire cette vaginoplastie dont je suis satisfaite. Aujourd'hui, j'estime être arrivée au but de ma transition, au sens où je pense avoir trouvé ma zone de confort, là où je me sens bien.
Bah écoute, merci pour ton partage. C'est toujours hyper satisfaisant d'entendre des gens dire qu'elles sont contentes et tout simplement satisfaction, une transition comme quelque chose de fait, quoi, qui est plus désespoir, déception et quoi, mais un fait qui fait désormais partie de la vie, quoi.
Un truc qui m'a marqué dans ton texte, c'est notamment quand tu parles, quelque chose qui revient plusieurs fois dans ton texte, c'est la peur de ne pas avoir de passing. Et j'ai l'impression que c'est souvent ça qui nous freine, parce que, notamment dans les vécus transféminins, il y a un peu une espèce de peur de... Enfin, moi, je sais que ce qui m'a freiné pendant des années de transitionner, c'était l'impression que je ressemblerais à rien, que je ressemblerais vraiment... Et notamment, il y a des gens qui ont eu un peu une révélation en faisant le filtre Instagram qui permet de changer de genre. Moi, c'était l'un des pires moments de ma vie quand j'ai fait ce filtre, en fait. J'ai vu le résultat et je me suis dit « Ah, mais merde, il ne faut jamais que je fasse ça de ma vie, en fait. » Et il y a vraiment cette espèce de peur d'avoir de passing. Et vraiment, le passing aussi est vu comme l'objectif à atteindre, alors que finalement, le passing... Enfin, déjà, j'ai jamais compris, en fait, ça se basait sur quoi, le fait d'en avoir ou de ne pas en avoir. Je trouve vraiment que ça n'a aucun sens. Donc, c'est bien que tu aies réussi à surmonter ça, au final, et que, puisque toi, ton objectif était d'avoir du passing, que tu en aies eu un, finalement. Et je trouve que, en fait, c'est bien. J'ai l'impression vraiment qu'il n'y a que des textes positifs pour le moment, parce qu'à Aurégane et moi, on a des textes super déprimants, on va chialer tout du long. Non, mais pour le moment, on n'a vraiment que des textes très joyeux et qui montrent, encore une fois, comme on le disait lors de la lecture du texte de Cléo, et je vais moins parler, je préviens après. que être trans, ça peut être une très belle chose en fait, et une très belle expérience. Et c'est ce que je ressens aussi en écoutant ton texte, en t'écoutant le lire, c'est que c'était une belle chose pour toi aussi, et c'est super chouette.
Sur le passing, je pense que, enfin, en soi, c'était pas tellement que c'était un but pour moi, c'est plus une peur en fait. C'est que socialement, si on a un passing entre guillemets mauvais, je mets entre guillemets parce que c'est très subjectif le passing. C'est que socialement, ça peut être très violent. Et ouais. Moi, c'est un peu de ça dont j'avais peur. C'était plus une peur qu'un but, hein, parce que je pense que c'est très difficile à définir le passing. Je pense que ça dépend de plein de choses. Et au final, moi, le seul truc que j'ai trouvé qui me permet de dire que je passe potablement, c'est qu'on m'appelle madame. Voilà, dans le public, tout ça. Et voilà, le reste, très honnêtement, ça va varier culturellement, en fonction aussi socialement. Donc c'est difficile de... Je pense qu'il faut dénaturaliser aussi un peu cette idée du passing, qui aura un passing naturel. C'est totalement subjectif.
Ce que ça m'a fait voir, ton texte, c'était... Enfin, c'est un truc... Enfin, en tout cas, un axe qu'on ne voit pas beaucoup non plus, mais c'est qu'en fait... Pour beaucoup de gens, le passing, c'est vraiment pas un truc qu'on fait pour nous-mêmes. Parce qu'en fait, s'apprécier soi-même, c'est hyper déconnecté des attentes pour qu'on nous foute la paix, soit être moins en insécurité. Et qu'en fait, on cherche pas tant à avoir du passing ou à le rechercher ou à penser le passing par le prisme des attentes de société ou de stéréotypes, en fait, que juste qu'il y en ait.
Après, il y a une question de dysphorie quand même qui est que si les gens t'appellent monsieur une fois sur deux et que c'est quelque chose qui te plaît pas, ça peut être dur aussi, quoi.
Bien sûr, mais c'est parce que cette expérience de passing, elle est juste plaquée sur l'apparence qu'on montre.
Oui.
Elle n'est pas de on te demande pas systématiquement comment les gens s'appellent. Si ouais. C'était le cas, la question de passing se poserait beaucoup moins, en fait.
Je suis totalement d'accord avec Cléo en fait, que certes, comme Aurégane le dit, il y a un côté en fait, c'est pour sa propre dysphorie qu'on va avoir du passing, mais moi je sais que de mon côté, c'est pas toujours que pour moi que je vais en avoir un en réalité. En fait, finalement, ça veut dire que si on m'appelait madame sans que je sois obligée de ressembler à ce à quoi je ressemble aujourd'hui, je sais pas si j'aurais fait autant de choses dans ma. Enfin, j'en sais rien en fait. Là pour le coup, c'est un peu je sais pas, j'y ai jamais réfléchi, mais c'est pas ça que je voulais dire. Là, je réagis juste à ce que Cléo disait. Un autre truc qui m'a frappé dans ton texte, Corée, c'est quand tu parles de ta prise de poids, en fait. Et je ne sais pas vous, mais moi, j'ai ressenti les normes de la féminité beaucoup plus fortes après ma transition, et notamment la norme sur le poids, qui est devenue quelque chose où j'en avais rien à faire, où j'ai toujours été... pour le coup, je ne me sens pas très légitime à trop en parler, parce que moi, je suis maigre et j'ai toujours été maigre, mais pour autant, dès que je sens que mon bidou grossit un peu, je le vis super mal, en fait, et c'est quelque chose que je ne vivais pas du tout avant ma transition, ça, par contre.
À moi, c'était le sens opposé, mais même blanc, bonnet blanc, dans la mesure où je complexais pas mal sur mon ventre, alors qu'en vrai, j'ai toujours été maigre aussi. Et quand les oestrogènes ont aplati mon ventre, parce que j'ai eu cet effet-là, j'ai vraiment eu beaucoup d'euphorie de genre, et j'étais en mode, ok, c'est le truc qui a le moins de lien avec le genre, et pourtant, quand même, si, quoi.
Quand j'étais jeune, j'étais assez maigre, et en rentrant dans la vie active, j'ai commencé un peu à manger n'importe comment, et du coup à prendre du poids, et surtout dans le ventre. Et clairement, en fait, ça m'a donné ce que j'appellerais pour le coup dysphorie. Je suis toujours un peu... Je donne ce nom-là parce qu'on a foutu de mieux, mais j'avoue que je me pose beaucoup de questions sur le terme de dysphorie. C'est pour ça que je préfère le mettre entre guillemets. Et du coup, ça a été un peu une période compliquée de ma vie, et où je me disais, ouais, si ça part pas, j'aurais... Enfin, voilà. Et effectivement, je pense que c'est là où on voit que quand on est trans, on subit aussi ces normes de genre. On subit ces injonctions à avoir un physique, entre guillemets, parfait. Et je pense que ça vient aussi beaucoup de là. En l'occurrence, la dysphorie que j'avais vis-à-vis de mon ventre, pour moi, elle venait de là, de ces injonctions à la minceur.
J'avais lu un, dans la continuité de ce que tu dis, quelque chose qui m'avait beaucoup fait de bien sur Twitter. C'était des meufs trans qui parlaient anglophones, je crois, et qui disaient « Ah ouais, depuis que j'ai transitionné, j'aime pas mon bide et tout. » Puis on a une qui disait « Mais en fait, on est passé de dysphorie à problème de meuf, et c'est quand même un bel avancement. » Et j'avais trouvé ça mimi, parce que c'est vrai que quand on est au stade à te questionner sur comment tu t'inscris dans des normes de genre, c'est déjà que c'est un genre que tu as adopté, qui fait partie de toi désormais. Donc, ce n'est pas positif, mais ça va quand même dans un sens qui peut être beau à voir, quoi.
En parlant avec... En fait, quand je parle des fois en cislande de transidentité, j'ai souvent, quand il y a des personnes grosses qui m'écoutent, qui en fait ont un peu peur au début, mais me disent que ça fait beaucoup écho, ce que je dis par rapport à la dysphorie, par rapport au corps que j'avais avant, etc. Ça fait beaucoup écho à leur ressenti par rapport à leur corps. Et à chaque fois, ces personnes s'excusent de faire un parallèle comme si elles n'avaient pas le droit. Et je trouve en fait qu'il n'y a pas à gatekeeper. En fait, le rapport au corps de la transidentité et plein de choses dans la transidentité, je ne vois pas pourquoi les gens n'auraient pas le droit de faire des parallèles avec leur vécu, même si ce n'est pas des vécus par rapport à la transidentité, en fait. Je trouve que ce côté d'être dans un corps où la société te dit que ton corps n'est pas beau et que tu n'as pas le droit de l'aimer, je trouve que ce n'est pas quelque chose qu'on doit fermer à simplement la transidentité, et que si ce qu'on dit peut aider d'autres personnes qui ne sont pas trans, je trouve que c'est super chouette.
Tu entends quoi par gatekeeper, Zélie ?
Par gatekeeper. Gatekeeper, ça signifie, merci Cléo pour la question, ça signifie en fait faire un peu du gardiennage d'un terme ou d'une expression, en fait. Par exemple, si jamais je fais du gatekeeping du mot trans, ça veut dire que je pars du principe qu'il n'y a que les gens qui prennent des hormones qui ont le droit de se dire trans, ou les gens qui font des opérations. Ici, dans Meuf at Hub, on est contre le gatekeeping. Tu veux te dire trans, dis-toi trans, c'est ok, c'est pas à nous de contrôler.
Et du coup, ça repose sur une base fondamentale qui est très chère à notre podcast, qui est l'autodétermination. C'est-à-dire que si quelqu'un se dit trans et veut entrer dans un milieu réservé aux trans, c'est elle qui décide et qui voit comment elle traite cette information et la suite, et c'est personne d'autre, en fait.
J'aime beaucoup l'image d'un videur de boîte de nuit, mais qui a une checklist très précise, une définition. Et en fait, c'est l'essentialisme, en fait, tout simplement. Parce que ça veut dire on crée une case qui en fait jette sur le côté plein de personnes qui ne rentrent pas précisément dans sa case, et c'est surtout pour ça qu'on est contre, et que je voulais rappeler le terme parce que c'est important, et c'est une notion qui est importante dans plein d'autres combats aussi, donc c'est pas mal.
Et au niveau de plus directement, le texte de Corée, ça renvoie très bien ça, qu'il n'y a pas d'essence de la femme, d'essence de la transidentité, et qu'il n'y a que des parcours individuels, et en fait ça rejoint ce qu'on va aussi sans doute dire sur la dysphorie d'après, mais que c'est pas des choses qui existent en soi, hors du monde connecté. C'est genre des mots qu'on utilise pour parler d'expériences, mais qui sont toutes différentes.
Autre chose dans ton texte qui m'a marqué, c'est quand tu parles du corps des femmes cis, en fait, et du fait que on se met à nous-mêmes des exigences qui sont énormes, de rentrer dans un idéal féminin dans lequel très peu de femmes cis rentrent en réalité. Je trouve que ça rejoint un peu ce rapport qu'on a par rapport au poids, c'est qu'on passe notre temps à vouloir vraiment atteindre l'idéal féminin, alors qu'en fait, les femmes cis elles-mêmes n'y rentrent pas et qu'il faudrait qu'on soit juste... C'est facile un peu, c'est encore le... Tu es exigeante avec toi-même et ton corps ? Arrête. Arrête. Non, mais c'est pas si simple. C'est pas si simple qu'on a des années de socialisation dans ce sens-là, de conditionnement, parce qu'on vit quand même dans une société, entre vous et moi. Mais qu'on a tout ça à déconstruire, ça part en live, qu'on a tout ça à déconstruire, ça met du temps, mais je pense que c'est important de l'entendre de... On n'a pas besoin d'être des mannequins de beauté, en fait. Pour... C'est pas l'objectif. Enfin, ça peut être votre objectif. Moi, c'est pas le mien, en tout cas.
Voilà, c'est ça, juste petit, enfin ça fait depuis tout à l'heure qu'on parle de poids, etc. Évidemment, à aucun moment on veut faire d'injonction à ressembler à quoi que ce soit, c'est chacun son corps et ses règles, mais voilà, c'est des injonctions qui existent et qui forment et qui modèlent nos façons de nous voir, qu'on le veuille ou non. En fait.
Ouais, ça a été vraiment important pour moi, et pour pouvoir envisager de faire une transition sereinement, c'est que justement, comme je le disais, c'est de voir que bah, oui, toutes les femmes cis, elles ont pas, elles rentrent pas dans des critères de beauté qu'on leur impose, en fait. Et donc, du coup, si moi, j'y rentrais pas, c'était pas très grave. Et je pense que c'est important aussi, ça. Et en fait, toutes ces injonctions à la beauté, on les prend aussi, nous, en tant que meuf trans, on n'est pas épargné, en fait. Hein. Moi, après, ça peut varier d'une personne trans à l'autre. Moi, je sais que ces normes-là, je les avais intégrées bien avant ma transition, quoi, en fait. Et c'est une partie de ce qui m'a empêché de la faire, d'ailleurs.
Est-ce que tu peux développer ?
Que, par exemple, savoir que comme moi, je ne rentrais pas dans ces critères de beauté féminine imposés par la société, je m'interdisais de faire une transition parce que je ne savais que je n'y rentrerais pas. Et que du coup, j'avais, tu vois, de déconstruire ça m'a beaucoup aidé.
Du coup, on est au terme de temps, on a bien fait le tournant, mais on a dit pas mal de choses. Je propose qu'on passe au texte suivant, si ça vous convient, si vous n'avez rien à rajouter.
Ça ne me convient pas.
Écoute Zélie, je vais te battre comme plâtre et ce sera meuf sans S à top la prochaine fois, voilà.
Mais arrête de demander si ça me convient alors.
Non, mais c'est de la politesse pour nos auditeurs. Il faut qu'on fasse semblant d'être amis, de s'apprécier, d'être dans une collégialité. Alors qu'en fait, on est juste là pour la transmonie, la fameuse transmonie du agenda LGBT. Bref, du coup, on a lu nos deux premiers textes. C'est la première moitié de l'épisode. C'est une petite entracte si vous voulez saisir notamment du popcorn, par exemple. Mais sinon, je vous enjoins à ne pas mettre pause et à continuer l'épisode. En exclusivité ce soir, enfin non pas vraiment exclusivité puisqu'il a déjà parlé, mais bon, c'est pas très grave. Zélie elle-même va pouvoir lire son texte. S'il te plaît Zélie, fais-toi plaisir.
Alors avant de le lire, juste tu peux dire elle-même.
Vas-y. Oh, pardon, elle-même.
Non, dis elle-même. Non, c'est juste tu dis elle-même à chaque fois et ça me fait rire. Voilà,
c'est, c'est un bretonnisme, je crois.
Bon, je vais lire mon texte, ça y est. Alors, mon texte, c'est une lettre que j'ai écrite à mon corps. Voilà, c'est un peu étrange, mais c'est ce que j'ai fait. Donc, je vais vous la partager désormais. Toi et moi, on a toujours une relation compliquée. J'ai grandi en pensant être indifférente à ton sujet. Clairement, ce n'était pas le cas. Ce n'était pas une absence de sentiment que je ressentais à ton égard. C'était de la haine. Je te détestais sous tous les angles. Des cheveux bruns trop bouclés qui commençaient à tomber à cause d'un médicament que je devais prendre. Une barbe qui ne poussait pas correctement, qui devenait rousse par endroits, mais par endroits seulement. Tu étais trop petit, trop faible. Et juste, je te trouvais laid. Non, je crois qu'entre 1996, mon année de naissance, et 2020, il n'y a pas eu un seul moment où, en te regardant, j'ai ressenti autre chose que du dégoût. Et j'avais l'impression que tu me le rendais bien. Après tout, en 2014, on m'a diagnostiqué un diabète, et j'ai dû faire attention à toi, alors que je te détestais. C'est pourquoi j'ai refusé de le faire, et je t'ai laissé dépérir, à de nombreuses reprises. Maintenant, les choses ont changé. Je crois que je commence à t'aimer. Je ne peux pas encore le dire avec certitude. Je ne sais pas si un jour j'en serai certaine. Mais quand je te vois, si le dégoût est parfois encore là, d'autres émotions se sont jointes à la danse. Et parfois, je te trouve beau. Et parfois, je t'aime. Pourtant, si les choses ont changé, j'ai pas l'impression que toi, tu sois si différent. Quasiment 2 ans d'hormones, 2 ans que je te tartine des trucs sur les bras ou que je t'injecte des choses pour que tu te modifies en douceur. Le souci, c'est vu que te regarder était compliqué, je ne sais plus exactement ce que tu avais différent avant. Je sais que je n'avais pas de poitrine, mais au final, j'ai beau le savoir, je crois que je l'ai oublié. J'ai oublié qu'il y a eu un avant, un jour où je n'étais pas Zélie, un jour où je ne savais pas qui j'étais et où je te haïssais. Je suppose que la trahison, pardon. Je suppose que la transition s'est faite en douceur, mais même ça, j'en sais rien. En regardant ces deux dernières années, je ne saurais pas pointer du doigt le jour où je suis tombée amoureuse de toi. Peut-être que le mot est un peu fort, amoureuse. On n'est pas censé être amoureuse de son propre corps. Pourtant, c'est le cas. Parfois. Parfois seulement, encore une fois. J'ai appris à t'aimer, en même temps que j'ai appris à m'aimer. Je crois que ça a commencé par une réalisation. Si je n'aimais pas qui j'étais, si je n'aimais pas ce à quoi je ressemblais, je pouvais le changer. J'avais le droit de le changer. Et surtout de décider, en partie, ce en quoi j'allais le changer. Au final, ce n'est pas tout à fait vrai. Je n'ai pas choisi grand-chose dans ma transition. Je me suis juste laissée emporter par la musique. Et si je ne savais pas du tout dans quoi je m'embarquais, je peux dire maintenant que ça en valait le coup. Moi qui détestais danser, maintenant j'apprécie de mouvoir sur cette mélodie qui nous emmène loin de qui on était avant. Mais encore une fois, qu'est-ce qui a changé? À part la poitrine que je n'avais effectivement pas avant. Notre visage était déjà comme ça. Notre voix était déjà androgyne. On nous disait « bonjour madame » au téléphone avant même qu'on réalise que ça nous plaisait. À l'époque, on répondait « non, monsieur !» avec une voix un peu ridicule puisqu'on essayait d'avoir une voix grave. Je crois que ce qui a changé, c'est le regard que je porte sur toi. Certaines personnes trans disent avoir été coincées dans le mauvais corps. Et c'est légitime pour parler de leur vécu. Ce n'est en revanche pas les mots que j'utiliserai pour parler de notre parcours. Je n'ai jamais été coincée en toi. J'étais coincée en nous. Mais ça va au-delà du corps. J'ai changé en 2 ans. Beaucoup. Si bien que j'ai l'impression de ne plus être la même personne. Le secret de notre relation aujourd'hui, c'est, je pense, qu'on a changé ensemble. En symbiose. Et si je peux me permettre de réécrire l'histoire, on n'a qu'à dire que c'était le jour où je me suis dit qu'au final, j'étais peut-être pas une humaine si nulle que ça, quand en regardant dans le miroir, je t'ai aimée pour la première fois. C'est plus poétique de cette manière, même si ce n'est pas tout à fait vrai. Je ne sais plus qui j'étais avant, je ne sais plus comment tu étais avant, mais au moins on est ensemble, et désormais on arrive à s'entendre. Alors continuons à danser, toi et moi, jusqu'à ce que la musique s'arrête.
Encore un texte plein d'émotions. Il y a beaucoup de choses que j'aime bien. Enfin, à la fois déconnexion, reconnexion entre ce que tu appelles toi et ton corps, et en même temps la conscience d'un être commun. Enfin, c'est tout emmêlé et en même temps, c'est une belle conversation à suivre, je trouve.
J'aime assez l'idée de cette discussion avec son corps et il y a des choses sur lesquelles je relate aussi beaucoup, notamment sur le fait qu'il y a une fois, moi je dis j'ai jamais détesté mon corps, mais je comprends qu'il y ait des gens pour qui ça soit le cas. Et voilà, quoi. Après, c'est toujours un rapport un peu compliqué, même maintenant. Hein, je veux dire que c'est pas toujours simple tous les jours, mais voilà.
Moi aussi, c'est un texte qui m'a vraiment beaucoup touché. Et du coup, je n'avais même pas fait gaffe, mais du coup, il y a des mots qu'on a dit en commun, c'est assez drôle. Mais c'est le fait qu'une expérience commune, un truc qui se fait en commun, en fait. Et du coup, en fait, parler d'un nous, c'est déjà une prise de position très forte. Et mais qui n'est pas là forcément d'emblée, en fait, ou pas de manière saine, ou pas de manière constructive, en fait.
Quand j'ai écrit ce texte il y a déjà, je crois, un mois, il y a assez longtemps. Et en fait, j'ai eu très peur d'être hypocrite dans ce texte, parce que je suis partie, j'étais animatrice en colo, et en fait, pendant ces 2 semaines, j'étais ultra dysphorique. Et je recommençais à détester mon corps, dans le sens où dès que je me voyais dans le miroir, je trouvais des choses masculines que je ne voyais jamais avant. Mais en fait, je trouve qu'en l'ayant relu, et en ne l'ayant pas relu avant de vous le lire à vous, là, tout de suite, je trouve que c'est OK, que c'était dit dans mon texte que c'était pas stable pour autant, que... La norme, c'est devenu que je l'aimais bien maintenant, et c'est un peu, maintenant que je ne suis plus en colo, je me suis retrouvée, là je vois ma petite tête dans la caméra qui est activée, et je me dis, bon, ça va, je t'aime bien au final. Et c'est pas stable, je sais que ce ne sera pas toujours de l'amour que je ressentirai pour... J'allais parler de mon corps à la troisième personne, c'est très étrange. C'est pas toujours de l'amour que je vais ressentir pour mon corps, mais ce ne sera pas toujours de la haine non plus, en fait. Ça va être un peu un mélange un peu étrange des deux, mais je trouve que c'est déjà mieux que ce que j'avais avant. Et je trouve que c'est chouette, en tout cas. Moi, je suis heureuse d'être qui je suis maintenant. En tout cas.
Sur un point plus personnel, il y a un truc qui m'a beaucoup plu dans ce que tu as dit, c'est le côté les gens te prennent pour une dame et tu fais non, c'est monsieur. Bon, déjà, c'est mimi un peu quand même, mais en plus, c'est vrai que moi j'avais vraiment un besoin de dire, parce que ça m'arrive, ça m'a c'est vraiment avant la puberté et plus après, mais vraiment le côté avoir besoin de dire que tu es un monsieur parce que tu sens une espèce de gouffre qui s'ouvre un peu sous tes pieds quand tu dis madame. Et oh merde, il faut que je dise que je suis un homme, parce que sinon, qu'est-ce qui se passe si j'en suis pas vraiment? Enfin, c'est des réflexions a posteriori. Sur le coup, tu es juste en mode attention, non. Mais c'est un beau vécu, parce que ça veut dire que c'est pas parce qu'à un moment, tu as l'impression que tu dois être un monsieur pour continuer que ce sera comme ça tout le temps. Et c'est une réalisation qui est évidemment a posteriori, mais qui est vraiment super importante.
Aussi, en fait, je me souviens de ce que l'idée importante de mon texte, c'est qu'au final, j'ai vraiment la sensation maintenant, avec seulement 2 ans de recul, hein, mais toujours 2 ans de recul, c'est déjà ça, que les hormones, ça a été l'élément le moins important de ma transition, en fait. Dans le sens où je suis sincère, j'ai vraiment l'impression d'avoir des bébés boobs, mais c'est tout, en fait. Et que le reste était déjà là, que c'est vraiment plus la manière dont je vois mon corps et de la manière dont je le présente aussi, dont je fais attention à lui et dont je m'occupe de lui, notamment mes cheveux. Je détestais mes cheveux avant, ils n'ont pas tant changé, en fait. Hein. C'est juste moi qui les coiffe différemment et qui fais attention. Mais en fait, les hormones, c'est vraiment, je pense, ça a été un des trucs les moins importants de ma transition, je pense. Je me répète, désolée.
En fait, il y a, bah forcément, je me perçois pas mal en miroir de être très neutre et très indifférente, où j'avais l'impression que la relation corps n'existe pas, dans la mesure où en fait, il n'existe pas vraiment, parce que je ne le figure pas beaucoup. Mais je me retrouve beaucoup dans ce que tu... Donc ça, c'est un rappel de mon propre vécu. Je me retrouve beaucoup dans ce que tu disais quand tu disais que en fait, on peut avoir de l'attirance aussi pour lui. Et moi, ça s'est venu quand j'avais des moments d'euphorie qui m'ont... Et en fait, ont vraiment été les moments qui m'ont guidé pour me dire que j'étais trans, en fait. Et en fait, c'est une attirance qu'on assimile très rapidement à une forme de narcissisme, alors qu'en fait,
c'est l'opposé.
C'est normal d'avoir un minimum d'attirance ou de quelque chose. Enfin, il peut se produire quelque chose, en fait, quand on regarde son corps, et quelque chose de positif et quelque chose de, aussi de construit et un peu une expérience commune, quoi. Et c'est vraiment bien de le rappeler, ça me parle beaucoup, quoi.
Relater aussi au fait que ça me fait un peu penser, je parlais de Blanchard tout à l'heure, à l'autogynécologie. Mm. Pour moi, l'angle mort de Blanchard, c'est qu'il a interprété cette manière qu'on peut avoir de commencer à aimer son corps, mais comme tout le monde, en fait, et comme un fétichisme, alors que ce n'est pas du tout le cas. Et par exemple, quand j'ai commencé à discuter avec une personne trans il y a 20 ans sur les réseaux, cette personne s'est définie comme autogénéphile. Et je me disais, moi au début, je ne connaissais pas du tout le terme ni son histoire. Je me disais, pourquoi pas? Et je le voyais juste comme le fait d'aimer son corps, de se sentir à l'aise dans son corps et de ne pas le détester. Et je ne voyais pas le mal qu'il pouvait y avoir. Je l'ai appris beaucoup plus tard. C'est un peu étrange comme truc. Mais ça montre aussi que cette idée être trans, on serait des personnes narcissiques juste parce que on essaye de faire en sorte d'apprécier nos corps, c'est totalement stupide.
Juste pour nos auditeuristes qui auraient pas, qui auraient eu la chance de pas tomber sur le mot, est-ce que tu veux bien expliquer brièvement de quoi ça parle?
Autogynéphilie.
Ouais.
Alors l'autogynéphilie, c'est un concept qui a été développé par un psychiatre américano-canadien, Ray Blanchard, qui a décidé de diviser les femmes trans en 2 catégories. Une première catégorie qu'il a appelée les homosexuels transsexuels, donc des hommes homosexuels qui, pour avoir davantage de conquêtes masculines, décident de faire une transition pour être perçus comme femmes et, entre guillemets, avoir davantage de possibilités de relations. Et pour expliquer, c'est un peu le cliché du « les personnes trans sont des homosexuels qui ne s'assument pas hein. ». Je pense qu'il y a beaucoup de ça là-dedans. Et du coup, pour expliquer les autres, les autres transidentités de femmes trans, il a essayé de raccrocher ça à une autre forme d'orientation sexuelle. Donc, il a dit que les autres personnes trans, celles qui n'étaient pas hétérosexuelles dans leur genre d'arrivée, entre guillemets, je mets genre d'arrivée entre gros guillemets, ces personnes étaient autogénéphiles, qu'elles avaient une forme de fétichisme où elles étaient amoureuses de leur propre corps en femme. Ce qui est en fait une surinterprétation, je pense, de ce qu'il a vraiment vu en fait. C'est, d'ailleurs, il y a des tests qui avaient été faits sur des femmes cis et ils ont trouvé, je crois, une trentaine de pourcents de femmes cis autogénéphiles. C'est dire à quel point le concept est assez peu pertinent en fait.
Oui, voilà, ça a été complètement debunk et aujourd'hui, c'est utilisé juste par les vieilles sorcières de TERF qui se basent sur des théories d'il y a plus de 100 ans pour cracher de la haine. Donc, ça a vraiment qu'un... Ok, c'est merci ça. Pour la définition.
Je sais qu'un des trucs qui me faisait super peur aussi dans le fait de lancer ce podcast, même si finalement, dès le départ, on a dit qu'on allait prendre ce parti pris, c'était justement les accusations d'autogynéphilie. Et je pense que quand j'écris mon texte, je savais que ça planait un peu. Je veux dire, je disais littéralement, je fais une déclaration d'amour à mon propre corps. Donc je me disais, bon, on va dire un peu autogynéphile, la meuf. Et moi, j'ai envie de répondre, oui. Non, pardon, je plaisante. Mais en fait, effectivement, je suis très contente qu'on en ait parlé et que justement, Corée, t'aies pu nous dire à quel point c'est complètement bidon et du vent. Et notamment, il y a plein de sujets comme ça où j'ai l'impression qu'on s'interdit d'en parler, notamment l'espèce de lien qu'il peut y avoir entre le. Enfin, moi, j'avais peur que ce soit un fantasme au début parce que effectivement, il y avait une espèce d'excitation sexuelle à une toute période quand j'étais ado et que j'imaginais la transition. Et en fait, pendant longtemps, j'ai cru qu'effectivement, c'était une espèce de juste de fétiche. Et en fait, bah, ça tombe bien, on compte faire un épisode là-dessus parce que nous, les sujets un peu tabous, on met les pieds dedans en mode
Voilà.
bam, etc.
Voilà, donc épisode spécial, tous les auditeuristes doivent avoir une cagoule pour l'écoute, c'est optimisé. Voilà, son et lumière.
Et mais du coup, je dis juste que je ne peux pas être plus d'accord avec ce que vous venez de dire toutes les trois. C'est un rappel important. Et quand on a des trucs à dire et des choses à porter aussi, ça en fait partie. Et c'est important de le dire parce que, bah, en fait, finalement, ce n'est pas un peu beau de proclamer une espèce de droit à s'aimer soi-même, quand même. Donc, allez, c'est ce qu'on fait.
Non, Cléo, tu es censée être malheureuse, tu es censée pleurer tous les soirs. C'est dur d'être trans, d'accord? C'est très dur, parce que sinon, nous, être cis, on est censé être heureux et vous êtes malheureux, d'accord?
Bah, c'est vrai que les discours de développement personnel des années 90-2000, de aimez-vous, faites-vous plaisir, le désir avant tout, c'est pour tout le monde sauf pour nous, quoi. Donc, c'est pas très
Ouais.
gentil quand même. On va donc pouvoir passer au texte suivant, qui est le mien, si cela vous convient. Enfin, même
Et
si ça
si
vous
ça ne
convient pas,
convient pas,
Zélie, même si ça ne
si ça ne
convient pas,
convient pas, tu fais quoi, hein? Je
Jean-Derry,
savais que t'allais le redire.
tire-toi. Oui, mais je me suis reprise. On va pouvoir passer au dernier texte qui est le mien. Donc je vais le lire et ensuite on pourra réagir. Alors le titre c'est La transition hormonale c'est magique, point d'interrogation. Donc ce texte est un résumé de mes pensées depuis le début de la transition hormonale, donc des 6 derniers mois, puisque ça fait 6 mois que j'ai commencé. Il peut être un peu dur à écouter si vous êtes sur le point de commencer la THS ou si comme moi vos débuts en la matière sont chaotiques, mais bon, le texte finit bien quand même. Octobre 2021, je réalise que je ne suis pas un mec. Ça planait dans ma tête depuis déjà quelques mois, mais la réalisation est maintenant, c'est clair et net. J'ai l'impression d'enfin sortir d'un long tunnel peu éclairé. J'en suis certaine, je n'ai pas de dysphorie. Mais bon, comme si comme ça, l'idée de prendre des hormones s'impose quand même très vite à moi. Je commence d'ailleurs à en parler très vite dans mon journal de transition, à peine 2 semaines après la réalisation originelle. En vrai, faites un journal, hein. Moi, ça m'a vraiment aidé à voir à quel moment j'avais pensé quoi et à garder une espèce de vision générale. C'est vraiment utile. Donc évidemment, des aspects me posent problème, comme la perte de la masse musculaire du haut du corps et 2, 3 autres trucs. Mais bon, je lis les bons tweets, les bons posts Reddit, et je réalise que je peux commencer les hormones, puis arrêter. En 2, 3 mois de thérapie hormonale seulement, si vous arrêtez, tout est réversible. Donc vraiment, la prise de risque est quand même assez faible, surtout si un endocrinologue vous suit. Donc les 2 premiers mois, c'est le chaos total. Je commence avec des injections et non pas des patchs ou des pilules. Donc ça donne des taux très stables, très hauts, mais du coup mes taux sont très vite très hauts, de mes taux hormones, j'entends. Dans mon cas, donc ça donne syndrome prémenstruel sur syndrome prémenstruel. Donc l'Internet a pour le coup une vision assez personnelle, si je puis dire, de qu'est-ce qu'il y a une transition qui marche ou pas. Et tout le monde te dit, si au bout d'une semaine ou deux, tu ne ressens pas de plaisir et de félicité de genre, c'est pas pour toi la transition. Alors que je peux te dire que 2 mois de règles, bah, c'est pas rigolo. Mais bon, au bout d'un moment, ça passe. Cependant, je commence à prendre peur au bout de 2, 3 mois. Je me dis que, en fait, enfin, je réalise que j'ai été contaminé, non pas par un produit de mauvaise qualité, mais par l'idée, véhiculée par les gens cis, que je suis en train de défigurer mon corps. Je vais regretter, c'est sûr. Genre, déjà à l'époque, je sais qu'il n'y a que 1% de détransition sur 100% de transition, donc 99 qui se passent bien. Mais ce chiffre-là ne suffit pas à me faire relativiser. Ce n'est pas de l'ordre de la raison, c'est une peur comme ça émotionnelle que je ne peux pas contrôler, une forme de panique en fait, de genre. Je commence à avoir à ce moment-là des bourgeons de seins. Mon visage commence à épaissir, à prendre du gras, parce que c'est un visage de meuf, bah, en fait c'est gras, c'est pour ça que c'est tout doux, notamment. Donc évidemment, la transition hormonale, ce n'est pas magique. C'est normal de prendre du gras à certains endroits. Et puis c'est normal que les effets visibles mettent du temps à venir aussi. Et à l'inverse, même si on peut voir assez vite des choses. N'empêche, je commence à prendre peur. Je commence à me trouver au bout de 3 mois laide, bouffie, au lieu de gagner en courbe, en volupté, en tout ce qu'on peut fantasmer de féminin. Et même si mes seins sont minuscules, je commence à être terrifié que ça se voit à travers mon t-shirt, parce qu'en plus, à ce moment-là, je suis dans un pays chaud, donc je ne peux pas mettre de sweatshirt ou quoi. Vraiment, mon corps est sous les yeux, sous les projecteurs, même s'il ne se passe pas grand-chose. Alors, j'ai su après que les 3 à 4e mois de la THS sont un peu la vallée de la mort. C'est là où beaucoup arrêtent, quitte à reprendre plus tard, mais c'est un peu le moment où où les doutes, tous les peurs se mélangent. Mais voilà, à vivre, c'est assez psychotique comme expérience quand même. Donc le doute, la peur, la honte aussi deviennent vraiment insoutenables à ce moment. Je m'interroge fort. Pourquoi est-ce que je prends des hormones alors que je kiffe pas? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je sens qu'il y a une raison pour laquelle je continue malgré tout et surtout malgré moi, mais je ne sais plus pourquoi. À ce stade, j'apprécie pas. J'ai l'impression que mon être se coupe en deux, ou plutôt que j'arrive pas à abandonner la masculinité. Enfin, plutôt, les privilèges et la protection de cette dernière. Mais quand même, j'ai l'impression d'être trop retenu par mon passé et que plus j'avance, plus je suis plus moi-même et que je me trahis, que je me défigure. Vraiment, c'est le mot qui tourne dans ma tête en boucle sur toute cette période-là. Au quatrième mois, je me dis « Ok, je vais arrêter. J'ai peur, je ne me sens pas bien, il faut que j'arrête. » Donc, en plus, mon contexte à ce moment-là était assez hostile et solitaire. Donc, vraiment, rien ne me permettait de prendre du recul. Ça tournait en boucle dans ma tête, les mêmes questionnements, en boucle, en boucle, en boucle. Donc, c'était pas très marrant, quoi. Donc, comme les injections, c'est une fois tous les 5 jours, avec du valérate en tout cas, je me dis « Go, j'arrête à la fin de ce cycle-là d'injection dans 3 jours. » Je me persuade, je me dis « Ah, enfin, tout va bien, je suis sereine, enfin sereine, c'est compliqué à ce moment-là. Mais tout va bien, je vais pouvoir arrêter et retrouver à une vie plus facile. » Et puis, je passe 3 jours à me morfondre, comme si je faisais le deuil d'un être cher. Arrivé le jour d'arrêter, je me rends compte qu'en fait, je ne peux pas arrêter. Ce n'est pas possible. J'ai besoin de continuer, même si je ne sais pas encore où je vais. Mais reculer est la pire chose qui pourrait m'arriver, même si je ne sais pas pourquoi j'avance. Du coup, je me refais une injection, puis une autre, et encore une, et me voilà aujourd'hui. Donc, je suis toujours plutôt sur un début de transition. Tout ce que je raconte était il y a vraiment pas si longtemps du tout. Mais tellement de choses se sont passées entre-temps. Je suis littéralement plus la même personne qu'à cette époque-là. Ça change très vite, et ça changera encore. Mais trouver des lieux sains où être moi n'était pas une honte, plus une honte, ou alors en tout cas plus que pour une petite partie de moi-même, m'a vraiment sauvé. J'imagine plus aujourd'hui arrêter les hormones, même quand je suis en mode « mais qu'est-ce que je suis en train de faire de mon corps ? Mais qu'est-ce que je fais ? Pourquoi je fais tout ça ? Qu'est-ce que ça m'apporte ?» Même à ces moments-là, je ne me dis pas que je vais arrêter. Pourquoi j'arrêterais de continuer à essayer d'être un peu plus moi ? Je reste ouverte cependant à la possibilité de changer encore. Mais la pensée qui m'a soutenue et aidée du début à maintenant, c'est me dire que je n'arrêterais que si j'arrêtais par une envie raisonnée d'arrêter et dénuée de honte, et que juste je voulais retourner à un corps testostéroné. Tant que je veux arrêter par honte et misère, mes motifs d'arrêter ne sont pas bons en ce qui me concerne. Et même si mon cerveau fait plein de trucs chelous sur toute la période, je vis avec la certitude que je vais essayer de faire ce qui est mieux pour moi en dépit de tout, que je fais ces choses que je fais, comme la transition, pour moi avant de le faire pour les autres. Mais il ne faut pas non plus oublier que le changement peut faire peur et qu'avoir son corps qui change de jour en jour, surtout si on n'est pas préparé correctement, ce qui ne veut rien dire, enfin, tu ne peux pas vraiment être préparé, je trouve, enfin, je l'ai vécu comme ça, c'est potentiellement traumatisant. J'ai détesté tout du long l'idée d'avoir des seins et le fait d'en avoir. Je commence tout juste à les apprécier, mais je reviens de très loin. L'idée qui m'a fait transitionner, c'est que tout était réversible. Jusqu'à la pousse des tétés, puisque j'aurais pu coupe-coupe si ça ne me plaisait pas au bout d'un moment, même si ça reste une opération lourde. La condition de possibilité de ma transition a été la détransition comme horizon des possibles. La THS n'est pas magique, mais elle ouvre la possibilité de se découvrir en franchissant pleine balle un certain nombre de barrières mentales, émotionnelles, biologiques, ce qui est quand même un bon début. Plot twist conclusif, en fait, si je pensais que je n'avais pas de dysphorie, mais j'en avais. Mais mon erreur initiale a été de croire que la dysphorie était un sentiment copyrighté officiel, reconnaissable entre tous, définissable et précis. Ce que beaucoup de gens pensent et ce que beaucoup de gens vivent. Dans mon cas, c'était plus un sentiment de vide, une haine de certaines choses, mais qui est tellement fusionné avec le quotidien que ça paraît normal, en fait. Aujourd'hui, la dysphorie est plus forte, mais elle est plus spécifiée sur certains points et une partie des points que je vais pouvoir améliorer et donc beaucoup plus gérable dans la mesure où maintenant, bah, je la vois avancer et puis j'ai commencé à comprendre que j'avais peut-être fait quelques bons choix quand même.
Je parlais parce que normalement, c'est toi qui parles après les textes. Mais vu que c'est ton texte, ça va être un peu bizarre si tu te remercies toi-même. Genre, bon, bah merci moi-même à Aurégane. Non, bah du coup, merci à Aurégane pour ce texte que je trouve très intéressant parce que bah, pour le coup, il parle de quelque chose qu'on n'a pas dans les autres textes. Même si, comme le disait Cléo, il y a des points un peu de je ne trouve pas un terme, hein. Il y a des points qui sont pareils. Voilà, je n'ai pas trouvé. c'est le doute, en fait. Dans aucun de nos textes, il y a eu vraiment des doutes. Si, on a eu un peu dans le texte de Cléo, mais c'était des doutes avant la transition. C'était des doutes de « est-ce que je suis vraiment trans ou pas ?» Dans le texte de Corée, je n'ai pas le souvenir qu'il y ait eu quelque chose de plus que dans le texte de Cléo, en fait. Je ne sais pas, Corée, si je me trompe.
Et, alors oui, effectivement, je n'en ai pas parlé dans mon texte. Du moins, je n'ai pas été très claire. J'ai eu des doutes sur le fait d'être trans au tout début, dans les années 2000, quand j'ai commencé à avoir des infos. C'est pour ça que je dis que c'est poser la question de savoir si j'étais trans ou pas. Enfin, je l'ai pas dit, j'ai pas été très claire, j'avoue, je me suis pas, j'ai pas développé. Mais oui, du fait que ben effectivement je rentrais pas dans les critères de transitude de l'époque. Est-ce que vraiment je suis trans ou est-ce que c'est autre chose et que je vais m'embarquer dans un truc qui est pas fait pour moi?
Et ce que je trouve très intéressant dans le texte d'Aurégan, c'est justement que là on a des doutes après, en fait, le début des hormones, en fait. Il y a des moments de doute, alors que les effets arrivent, et une espèce de peur de ok, merde, ça commence, mais est-ce que c'est ce que je voulais? Et je trouve ça super intéressant qu'on ait ce texte dans le podcast, parce qu'en fait, si on avait que des textes de ouais, dès qu'on a pris les hormones, c'est bon, c'est OP, on sait que c'est ce qu'on voulait, bah, s'il y avait des gens qui nous écoutaient et qui étaient dans le même cas que toi, Aurégan, ils seraient un peu en mode panique, en mode bah, est-ce que ça veut dire que bah, si moi j'ai pas eu pareil, je suis pas trans? Alors que là, ça montre bien la pluralité des vécus. Et je trouve ça super qu'en plus, dans ton texte, tu sois ouverte au fait que bah, ça se trouve, ça va rechanger, en fait. J'en sais rien de si ça va rester stable. Et en fait, le rapport au genre, c'est quelque chose qui évolue beaucoup. Je repense à Cléo qui, dans son texte, disait au début avoir pensé être gender fluid ou bigenre. Moi aussi, au début, je pensais être gender fluid. En fait, ça met du temps de se trouver. Ouais. Mais même quand on pense être trouvé, ça peut encore bouger. Et c'est important de le garder en tête, ça.
Bah, le point le plus fondamental de transitionner, pour moi, c'était réaliser qu'en fait, ce qu'on appelle l'identité, c'est qu'un ensemble de codes, de mots, de pronoms, d'éléments corporels, évidemment, enfin éventuellement, et que tout ça était genre fluide et soumis à des vents changeants, contraires tout le temps, et qu'à part les embrasser, il n'y avait pas de vraie manière d'être soi.
Je relate assez ça aussi. Alors moi, je ne connaissais pas à l'époque, hein, il y a 20 ans, non-binaire et gender fluide n'étaient pas des termes employés régulièrement. Mais du coup, quand j'ai renoncé à ma transition, moi, je me suis longtemps définie comme une personne, entre guillemets, un homme avec une part de féminité importante. J'ai essayé de trouver, on va dire, un dérivatif, un succès d'année, en quelque sorte, pour justifier de ne pas faire de transition, quoi, en fait. Et ça a été mon moyen, un peu, de ma porte de secours, en quelque sorte, de me définir comme ça. Je pense que si j'avais eu des termes comme non-binaire ou fluide de genre, peut-être que ça aurait pu me parler davantage. Mais on voit là qu'en fait, l'identité de genre et les transitions ne sont pas des choses linéaires, que ça évolue au fil du temps. Que parfois, on se dit, dans la transition, je vais faire ça, puis finalement, on se dit qu'on n'en a pas nécessairement besoin. Qu'il y a des choses qu'on n'envisage pas et qu'on fait, et puis que des fois on se dit que finalement c'est peut-être pas la bonne voie, et puis en fait ça pose aucun problème.
Du coup, je vais dire ce que je voulais dire. L'expérience du doute, en fait, elle est méga importante. En fait, j'avais lu sur Reddit et plusieurs fois, en fait, l'expérience du doute, elle est pas mal présente dans l'expérience de la transidentité tout court, en fait. Transidentité ou transitude, du coup, on en parlera peut-être après. En fait, il y a toutes les choses qu'on ignore sur... sur se projeter, c'est quand même super dur. Et j'ai l'impression qu'il y a un peu... Le doute est quand même super présent chez plein de gens, quand même. Et si ce n'est pas le cas, tant mieux. Mais en fait, le truc, c'est que si le doute est là, ce n'est pas grave non plus. Et qu'en fait, il y a un peu une injonction, un peu indirecte de ne pas avoir de doute, d'être sûr. Parce que comme je pense au coming out, en fait, si on montre qu'en fait ça peut changer, ça se trouve, je serai d'autres gens, ça se trouve, j'en serai plusieurs dans ma vie, ça se trouve, j'en changerai toutes les heures. Enfin, c'est comme si c'était une perte de crédibilité ou une perte ça montrerait qu'on n'est pas sûr ou que ça pourrait être la fameuse phase qui n'est jamais une ou enfin voilà. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'on nous impose beaucoup d'être très certaines, certains ou certaines, ou certains, de nos chemins, ou de ce qu'on veut faire, ou de vers là où on va, ou quoi que ce soit. Mais en fait, si on se met dans les pieds, dans les godasses de n'importe qui, c'est impossible de pouvoir se projeter hyper loin dans le futur, qu'on soit cis ou pas, en fait. Et voilà, je trouve que c'est important de le dire qu'en fait, le doute, c'est pas invalidant, en fait. c'est peut-être même rassurant parce que bah, ça veut dire que si tant vous continuez, c'est qu'il y a quand même un certain degré de certitude peut-être. Et que, bah, en fait, on peut très bien s'arrêter et reprendre autant de fois qu'on veut, on n'est pas moins légitime en fait. Bon voilà, dans tous les cas, ça veut dire qu'on y est relativement attentif ou attentif, quoi.
Oui, plus je parle à des gens et je compare, je discute de mon parcours et de leur parcours de transition, et plus je réalise que les phases d'expérimentation de non-binarité, ce qui ne dit absolument pas que la non-binarité ne peut pas être un état permanent, ni que ça a moins de valeur, mais juste, beaucoup de gens sont passés par ces moments-là de doute, de questionnement, de fluidité. Et ça montre vraiment bien que bah, le doute est aussi constitutif de la personnalité que la certitude, en fait.
C'est encore une fois un sujet dont je suis très contente qu'on en parle, un peu comme l'autogynéphilie dans le précédent texte, parce que là, on est encore sur un sujet, le doute, et finalement, on parle un peu des potentiels des transitions. C'est un peu un sujet qui est vachement instrumentalisé contre nous, en fait.
Oui.
Je trouve ça super cool qu'on en parle comme ça, et que le doute fait partie aussi de nos parcours. Le doute ne nous... rend pas illégitime, et même si en fait je pars du principe que demain, si je décidais de détransitionner, des quelques discours de détransition que j'ai entendus, notamment moi j'ai commencé ma transition, je participais à un groupe de parole Espace Santé Trans, et en fait à un moment il y a une personne qui avait pris de la testostérone, qui avait arrêté, mais qui n'en parlait pas du tout comme d'un retour en arrière en fait, qui parlait de bah, son genre a continué à évoluer, et je trouve ça vachement chouette en fait que... En fait, il n'y a pas une espèce de... Enfin, les choses bougent. Et encore une fois, ça se trouve, il y a des gens qui le vivent comme un retour complet en arrière. Et je voulais revenir aussi, parce que pendant que vous parliez, je réfléchissais aussi à ce que je pouvais dire. La non-binarité, j'ai vraiment l'impression qu'effectivement, souvent, ça sert d'une porte d'entrée. Je ne généralise pas, hein, mais moi, en tout cas, ça a servi de porte d'entrée. C'est-à-dire que ça a commencé par un coming out, moi, de non-binaire, de « Ok, je ne suis pas un mec ». Mais au moment où j'ai fait mon coming out non-binaire de « Ok, je ne suis pas tout à fait un mec », moi, je disais, ouais, j'ai pas besoin d'hormones, j'ai pas besoin de changer de pronom, j'ai pas besoin de pronoms, moi,
ouais,
c'est,
non,
pas,
c'est quoi
pas
ce
nécessaire,
truc
les pronoms, et j'ai pas changé de prénom. 2 mois plus tard, j'allais toquer à la porte de mon médecin pour demander des hormones, mais pour autant, je reste non-binaire, en fait. C'est-à-dire, je ressemble certes à une meuf, on me dit madame maintenant, tout dans mon vécu est indissociable d'une vécu de n'importe quelle autre meuf trans, mais je suis pas une femme, en fait. J'utilise bien le terme meuf, mais je ne suis pas une femme, et la non-binarité reste une part importante de mon identité. Juste... pas la même chose. Je sais que j'aurais plein de choses à partager avec les autres personnes transféminines. En fait, mon identité précise, c'est un truc plus pour moi, en fait. Pas pour créer une communauté revendicatrice. Mais du coup, le fait de passer par la non-binarité, ça, en fait, ça illégitime rien du tout. En fait, à chaque fois, vos étapes de parcours ne vous rendent pas illégitime. Au contraire, c'est... Enfin, moi, par exemple, à un moment, j'ai cru que j'étais... En fait, j'ai cru... Mes 2 années de transition, je suis passée par tellement de mots différents pour me décrire. Mais même si aujourd'hui, je pense ne plus être ces choses-là, bah, je pense que j'étais sincère quand je pensais les être, en fait. Et du coup, j'ai pas envie de dire que parce que maintenant, je ne me reconnais plus dans ces termes, je ne vibe plus avec ces termes, ça veut dire que je me trompais. Je pense pas m'être un jour trompée sur qui j'étais, en fait. C'est juste que le regard que j'avais sur moi a passé son temps à changer.
C'est super important ce que tu dis, et moi, je suis carrément d'accord avec ça. Et vraiment, le déclic qui était peut-être le plus important dans ma transition, c'est quand je me suis dit, OK, je vais arrêter de me dire quand je serai une meuf en imaginant un passé hypothétique, enfin, un futur hypothétique dans 6 ans et 14 opérations et 3000 euros de garde-robe. Mais quand je me suis juste dit, bah, en fait, je le suis maintenant, même si je n'y ressemble pas. Et voilà, c'est qui je suis. Et je n'ai pas obligé d'attendre un futur pour être qui je veux être, en fait. Donc, complètement. On a Zélie qui fait des petits pas de danse en direct dans les podcasts. C'est bien, c'est joyeux.
Je ne fais pas des pas de danse. Je hoche la tête parce que je suis d'accord avec ce que tu dis. Mais du coup, ce n'est pas très radiophonique. Mais je ne vais pas dire à chaque fois que tu parles « Ouais, je suis d'accord, t'as trop raison, meuf, continue !»
C'est vrai. Bah, on fait littéralement un podcast parce qu'on est d'accord après. Donc,
Oui, c'est quand même un peu vrai.
C'est réel. Bon, on arrive sur la fin du texte. Donc, dernier ajout ou on passe à la conclusion. C'est le moment si vous avez des petites choses à dire.
Moi, j'avais mis un truc pour plus tard parce que Corée s'en est servi plusieurs fois. Et donc, du coup, pour le coup, ça m'intéresse parce que je n'ai pas trop de repères exactement sur le terme, mais tu utilises beaucoup le terme transitude pour parler de ton expérience. Est-ce que tu voudrais détailler ce que tu entends par là ?
Alors en fait, c'est surtout juste une manière d'essayer de sortir de l'idée d'identité. Non pas que ça soit pas bien en soi, hein, c'est juste que c'est tellement récupéré aujourd'hui que j'aime assez cette idée de transitude. C'est le fait d'être trans, quoi, en fait. Donc ça n'empêche pas, enfin ça reste très inclusif, hein, j'ai pas la prétention de définir précisément ce que serait d'être trans, mais c'est juste de dire, bah, moi je parle du fait d'être trans. Et du coup, voilà, c'était plus ça, quoi. C'est de me raccrocher à une, entre guillemets, une réalité sociale qui est visible pas, hein, c'est pas nécessairement ça, mais qui est de parler de la réalité sociale d'être trans.
J'aime beaucoup l'idée de sortir du mot d'identité parce qu'il n'est pas, c'est pas un mot qui est invalide, mais il est devenu tellement lourd que justement faire des petits détours, c'est pas forcément mauvais pour le discours. Je suis assez d'accord avec ça.
Moi, ce que je voulais dire, un peu ma phrase de conclusion de ce podcast, c'est qu'au final, notre thème, c'était le rapport changeant, enfin, ou je ne sais plus quelle phrase, comment on l'a formulée, mais le rapport à un corps qui change. Et en fait, on a parlé de plein d'autres choses en même temps. Et un peu comme dans notre premier épisode, on parlait de beauté. Et en fait, je sais que certaines personnes nous ont un peu reproché que c'était un peu le bazar dans notre podcast, ça. Mais moi, c'est une des choses que j'ai beaucoup aimé quand j'ai réécouté notre podcast. Et je sais que certaines personnes ont aimé. Je pense qu'il va falloir accepter que ce sera toujours le bazar, notre podcast, qu'on va à chaque fois se laisser porter par nos conversations. Mais c'est des conversations très intéressantes. Et je trouve qu'à partir du rapport changeant, à partir de ce sujet du rapport changeant sur du rapport à un corps. Du rapport changeant, un corps changeant, parce que les deux changent. On a parlé de plein de choses hyper importantes. En fait, j'arrête pas de me dire, punaise, j'aurais tellement aimé écouter ce podcast il y a 2 ans quand j'ai commencé la transition. Et je trouve ça important de faire quelque chose, d'être la personne qu'on aurait aimé avoir à nos côtés quand nous, on a commencé. Je trouve que c'est chouette, en fait. Voilà.
Et le bazar est non seulement un choix politique, mais idéologique. Et les tenants de l'ordre, bon vent, si je puis dire.
Ouais, c'est ça.
Du coup, on arrive sur la fin du podcast. Bah, merci si vous êtes resté jusqu'ici, parce que peut-être que ce sera un épisode un peu plus long que la dernière fois, mais il y en aura d'autres des très longs, donc tant pis pour vous.
L'épisode
On
de
va.
4 heures arrive.
Voilà. Oh ouais, l'épisode de 12 heures non-stop. En fait, il faudrait juste qu'on stream et qu'on arrête de se mentir.
C'est ça.
Meuf a souri. Bref, du coup, on va passer donc maintenant à la partie enregistrement. Vous pourrez entendre nos autres sœurs parler d'elles afin d'élargir un peu les horizons. La question qu'on leur a posée, c'est comment le rapport que vous aviez à votre corps a évolué au cours de votre transition. Donc elles vont y répondre. Merci mille fois à elles. C'est toujours un plaisir de pouvoir travailler avec d'autres gens que nous. Et merci également à Corée Perséphone d'avoir été là. C'est vraiment une valeur pas possible d'avoir occasion de parler à des personnes trans qui sont pas de la même génération que nous, qui ont un parcours différent, qui ont commencé plus tôt. Enfin, le rapport à la transition, on le voit bien. On est d'accord, je pense, là-dessus. Hein, mais ça change tous les 2-3 ans. Il y a des nouvelles méta, enfin des nouvelles générations, quoi. Ça va à pleine vitesse. Donc c'est super important de conserver une trace du passé pour pas avancer à l'aveugle en fait.
Non, je voulais juste vous remercier de m'avoir invité. Bah tiens, puisque tu parles de penser, de garder la mémoire du passé, c'est une chose qui m'avait marqué dans un documentaire sur Bambi, c'est-à-dire sur comment, Marie-Pierre Prouvost. Je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une femme trans qui a été un peu connue dans les années 60-70, avant de retourner dans l'anonymat. Elle a été danseuse de cabaret sur Paris et après elle a repassé ses diplômes pour devenir finalement professeure de littérature dans des lycées. Et elle était encore partie dans l'anonymat et elle a repris la parole quand elle a pris sa retraite. Et elle disait une chose que je trouve intéressante, c'est que on est une communauté, nous les personnes trans, où on a du mal à passer le relais entre les générations. Et c'est quelque chose qui est assez important. Il y a 20 ans, quand j'ai commencé à me poser des questions, il y avait une super émission de radio. Il n'y avait pas encore de podcast à l'époque, mais on pouvait encore les partager en fichier audio sur Internet. Et ça s'appelait Bistouri, oui. C'était sur Radio Libertaire et c'était super cool. L'idée, c'est de dire que ben, je trouve que c'est intéressant de nous passer le flambeau et c'est peut-être ce qui nous a manqué et qui a ralenti nos luttes aussi. Et ce qu'on fait en ce moment, je trouve que c'est vraiment très cool. Il y a vraiment une lutte intergénérationnelle. Je le vois sur Twitter où. Il peut aussi bien y avoir de très jeunes personnes, parfois à peine majeures, qui militent et tout. Et à côté de ça, des personnes qui ont fait partie de la génération d'avant moi, qui ont 60 ou 70 ans, et qui viennent aussi participer à la lutte. Je crois que c'est ce qui me donne de l'espoir aujourd'hui dans nos luttes. Ce
Oui,
passage de flambeau.
c'est vrai. Bah, j'avais vu le témoignage aussi, et c'est à ça que je pensais en disant ces mots. Et c'est pour ça que vraiment, ta présence avec nous a une valeur qui est particulièrement symboliquement forte pour nous aussi, qui sommes plutôt jeunes.
C'était d'une énorme richesse, en tout cas, cette émission. Et de t'avoir avec nous, Corée, c'était un énorme plaisir. Vraiment, merci à toi. Mille fois merci.
Merci à vous.
Oui, merci infiniment. Enfin, là, c'était dit à la fin et même tout court. Là, j'en ai vraiment les larmes aux yeux. C'est vraiment, enfin, c'est vraiment trop bien. Donc, bah, merci beaucoup. Et puis, c'est vraiment une très chouette émission avec vous trois.
Oui, merci beaucoup. À bientôt pour l'épisode numéro 3.
Il me semble aussi qu'après les questions, on va écouter une musique à Ourégane, non?
Oh là là, mais c'est parce que peut-être que je gardais le meilleur pour la fin. Du coup, alors, Omens Klig Music, qui est une sœur trans qui fait de la super musique, qui va sortir bientôt son prochain album. Suivez-la, elle est sur tous les réseaux, je crois. Et elle fait de la super musique, franchement, elle est trop forte. Et elle nous a prêté gracieusement un son que vous allez pouvoir découvrir tout de suite en exclusivité. J'ai pas
Et
le titre.
ouais, alors le titre, c'est une musique qu'elle a composée spécialement pour l'émission, parce que sinon on peut avoir des problèmes avec son distributeur. Mais en fait, à chaque émission, maintenant, on va passer un morceau d'une sœur, d'une meuf trans qui fait de la musique. Donc si vous faites de la musique et que vous dites oh, trop chouette, de la pub gratuite, eh bien n'hésitez pas à nous envoyer un petit message. Et hey, coucou les meufs à top, ne nous appelez pas les meufs à top, je trouve ça un peu cringe en vrai. Coucou les trois nanas qui font un podcast qui s'appelle Meufs à top, est-ce que je peux passer ma musique dans votre podcast? Et nous on fera bah oui, bien sûr, fais comme chez toi. Voilà.
Alors par contre, on n'a pas de sous, mais j'en profite également pour remercier Damien qui nous a filé ses musiques et celles de son copain dans le dernier épisode, qui a droit aussi à un remerciement vocal. Merci.
À la prochaine! Je n'aimais pas mon corps. À la place d'écouter ce que me disait ma tête, j'ai voulu aller à contresens. À l'adolescence, j'ai eu une puberté plutôt féminine et mes seins ont poussé. J'ai cru sérieusement que mon désir était dû au fait que je ne correspondais pas à un standard stéréotypé masculin. On m'y a un peu forcé aussi.
Alors j'ai fait une ablation mammaire. J'ai forcé dans le sport à outrance. Jusqu'à avoir un corps douloureux, raide et sous tension permanente. Qu'est-ce que j'étais conne en fait. Spoiler, ça n'a pas marché. Avec ma transition, j'ai appris à apprécier et écouter mon corps. Il est précieux. Mon corps, c'est moi. Et j'ai envie d'en prendre soin.
Hello les filles, déjà en premier temps je voulais vous remercier de me donner la parole, c'est vraiment cool de faire en sorte à ce que ce soit un peu un média de partage, donc franchement c'est grave cool. Moi c'est Rabina, j'ai 23 ans et je suis sous traitement hormonal depuis environ 5 mois. Et pour vous parler un peu de ma relation avec mon corps au fur et à mesure de ma transition, c'est que j'ai un peu réalisé que, bon je vais parler pour mon cas, de personnes qui suivent une transition avec traitement, on a cette espèce de notion de contrôle du temps et de contrôle de notre corps, peut-être que des générations d'avant n'ont pas du tout eu, et on prend vraiment conscience de ce pouvoir qu'on a, et on se sent vraiment totalement maîtresse en fait de ce qui se passe, de notre évolution, donc c'est vraiment cool. C'est un peu comme si on prenait cet état de co-créatrice en fait de notre réalité, et de plus, enfin comment dire, de plus se laisser un peu balancer par les événements ou les subir ou se dire ah bah c'est peut-être bien dans mes rêves, ou vraiment on prend ce pouvoir et on agit, c'est ça fait plaisir.
Alors au début de la feuille c'est marqué Géraldine, ça se trouve c'est une typo, alors je le fais aussi. Témoignage de Géraldine. Bonjour à vous trois. J'ai 57 ans, marié, un enfant, et physiquement je ressemble plus à Monsieur Tout-le-Monde qu'à une personne de genre féminin. Et pourtant. Vers l'âge de 10 ans, j'ai passé une jupe de ma grande sœur. Depuis, j'ai toujours porté, en secret, des vêtements féminins. En 1983, en pleine vague sida, et juste après la légalisation de l'homosexualité, j'ai compris qu'il y avait une erreur et que je devais être une femme. Je me suis torturée pour savoir si je me lançais dans une transformation ou pas. Ce qui m'a conduit à ne pas le faire, c'est un désir d'enfant, plus fort que tout au monde. Alors j'ai enterré celle que je voulais être pour rester celui que j'incarnais. Jusqu'à ce que je rencontre mon épouse, la plupart des gens me pensaient homosexuel. Tout au long de ma vie, j'ai vécu des galères, tant au travail que dans ma vie sociale et privée. Ce n'est qu'en 2017 que j'ai compris pourquoi les gens ne m'appréciaient pas, pourquoi j'avais des moments de tristesse inexplicables. Pourquoi me sentir femme était un refuge quand je n'allais pas bien. Grâce à YouTube, Laura Badler principalement, j'ai commencé à remonter mon passé, et puis j'ai consulté des forums sur Internet. Là, j'ai lu mes inexplicables problèmes, travail, social, sexualité. J'ai pu ensuite rentrer en parler à un psy, qui m'a aiguillé vers la Sophecte à Sainte-Anne. Là, j'ai été estomaqué que l'on me demande une lettre de motivation, alors que je n'avais pas encore pensé à une transition et que je cherchais juste de l'aide. Ce qui m'a rassuré le plus, c'est ma prise de contact avec Accept Testé et échanger avec un mec trans. J'avais en face de moi quelqu'un que je comprenais et qui me comprenait. Seul, je me lancerais dans une transition, mais j'aime mon épouse et je sais qu'elle ne supporterait pas mon choix. Je risquerais également d'y perdre mon fils, qui est très attaché à sa mère, alors je fais le choix de rester tel que je suis. Pour autant, je sais que je suis trans et que cette transidentité se voit. Je sais que les autres l'aperçoivent et qu'ils ne comprennent pas le décalage entre l'image de moi physique et ce que ma personnalité exprime et que cela génère chez eux une irrationnelle peur. La transphobie est plus généralement une expression de la bêtise et de l'ignorance que du rejet de l'autre. Vous m'avez apporté beaucoup par votre podcast et j'espère que nous aurons un jour l'occasion de nous rencontrer. Je voulais témoigner dans votre émission car je ne suis pas la seule, issue de ces années où l'on ne parlait que de transsexualité et où beaucoup de psys, et c'est encore le cas, vous considéraient comme un malade psychiatrique. Je ne suis pas seule dans cette tranche d'âge à avoir fait le choix de mettre un mouchoir par-dessus. Alors, si mon témoignage peut t'aider, ne serait-ce qu'une personne. Encore une fois, merci pour ce podcast, pour vos propos sur la sexualité, et je confirme que la seule façon de visualiser un corps trans dans son intégralité reste, hélas, les sites pornographiques, pour le sujet sur le make-up. Je me suis engagée dans une démarche d'éducation et d'explication auprès de mes proches, même si cela est parfois compliqué et difficile. Longue vie au podcast des Meufs à Teub, amicalement.
Témoignage de Alice. Salut les meufs à tub. Déjà un grand merci et bravo pour votre premier épisode, c'était chouette. J'étais très contente d'entendre le texte sur le mou, inspiré des réflexions de Mirza. Je parle du mou à tout le monde autour de moi, en tout cas quand l'occasion se présente. Ensuite, quelques réflexions sur l'évolution de la relation à mon corps avec la transition. J'ai beaucoup aimé quand l'une d'entre vous a fait cette distinction entre faire du sport contre soi-même ou pour soi. Avant transition, je ne faisais pas de sport, mais je me reconnais dans ce rapport à un corps qui n'est pas sous le signe du pour, du avec. Ou en tout cas, sans être fortement contre, c'était plutôt sous le signe du faire avec, un avec de dépit, de résignation. Je tolérais ce corps qui ne rentrait pas dans les standards masculins. Minceur, voire maigreur, posture efféminée. Je le tolérais par dépit, par résignation, car j'avais appris très tôt que quand les choses sont ainsi, elles sont ainsi, et mieux vaut l'accepter. En un sens, cela a fait de moi quelqu'un qui supporte assez bien la frustration. Quand je sais que quelque chose est ainsi et que l'on ne peut rien y faire, je l'accepte assez facilement. Ou en tout cas, la résignation n'est pas trop douloureuse. Sauf que voilà, on ne m'avait pas dit qu'en fait on pouvait y faire quelque chose. Avec la transition et le THS, l'immense joie et bien-être de voir mon corps changer pour le mieux, ou bien de pouvoir m'approprier enfin les parties qui ne changeaient pas, mais devenaient miennes authentiquement, dans l'acceptation heureuse et non plus résignée, toute cette joie s'est mêlée à un phénomène étrange. Puisque les hormones me montraient tous les jours que l'on pouvait changer quelque chose, voilà qu'une dysphorie enterrée sous la résignation a refait surface. Voir mon corps et ma relation à mon corps changer pour le mieux a donc aussi remis la lumière sur des parties dont j'avais ignoré la dysphorie qu'elles pouvaient apporter. Je pense en premier lieu à mes parties génitales, qui me sont de plus en plus difficiles à supporter depuis le début du THS. Cela n'est pour moi pas à comprendre comme une sorte d'effet secondaire regrettable du THS qui me ferait détester des parties du corps avec lesquelles je n'avais pas vraiment de problème avant, mais bien comme l'un des pouvoirs les plus réjouissants du THS. Celui de m'avoir redonné une relation consciente à mon corps, une écoute véritable, une relation dynamique, ou plus simplement encore, une reconnaissance que mon corps existe. Cette connaissance, pourtant toute intuitive, avait elle aussi été enterrée sous les combles de cette tolérance résignée. J'aurais encore plein de choses à dire, en particulier sur l'évolution de ma relation à mon corps sexué, mon corps excité, mon corps qui baise. Mais ce sera peut-être pour plus tard. Dernière chose, si jamais vous cherchez une sœur pour vous aider d'une façon ou d'une autre dans l'élaboration du podcast, faites-moi signe. Je n'ai pas d'expérience en termes de création de podcast, mais ça fait un moment que je cherche une façon de m'investir pour avec mes adelphes, en particulier à travers un podcast. Pour info, je m'appelle Alice, j'ai 28 ans, j'ai fait de la philo et je me forme à la sexologie pour exercer en éducation sexuelle et en sexothérapie. Force, amour et Adelphite à vous. Alice.
Témoignage de Anna. Bonjour, je m'appelle Anna, je suis femme trans de 22 ans. Ça fait maintenant 5 ans que j'ai appris et admis ma transidentité, 3 ans que je suis out et 2 ans que je suis sous THS. Pour répondre brièvement, j'avais une relation très conflictuelle avec mon corps préhormone qui s'exprimait par des TCA et de la dissociation lorsque je regardais dans le miroir. C'est des problèmes qui sont restés très récurrents et qui ont empiré quand j'ai fait mon coming out. À ce moment-là, j'avais d'énormes crises de dysphorie où j'étais incapable de sortir de chez moi pendant plusieurs jours tellement je me dégoûtais moi-même. Pour tout ce qui est sexe, c'était impensable à cette époque-là et j'ai carrément fait une pause dans ma vie affective. Je ne sais pas si c'est le temps, les hormones ou avoir de nouveau des relations, mais j'ai commencé peu à peu à apprécier mon corps. Mais je pense que c'est le passing qui m'a le plus aidé à voir au-delà de ce que je ressentais pour mon corps. J'ai recommencé à relationner après 3 ans seul et j'ai commencé à me sentir confiante et surmonter pas mal de choses qui me paraissaient impossibles comme le sexe. En tout cas aujourd'hui, j'ai remis en cause tous mes objectifs de transition. Je voulais faire une vaginoplastie et une féminisation du visage, mais c'est plus trop d'actualité. J'ai finalement réussi à aimer mon corps, ses imperfections et singularités. Si vous voulez que je développe sur certains points, je peux. Ça me fait beaucoup de plaisir d'aider des filles de ma communauté. Mon témoignage n'a pas à être anonyme. Merci de m'avoir écouté.
Témoignage de Abigail. Trigger warning, self-harm et TCA non explicite. Mon rapport à mon corps a toujours été compliqué. Je l'ai détesté, je l'ai abîmé, car je ne le voyais pas comme le mien. Plutôt comme celui de quelqu'un d'autre que j'étais contrainte d'utiliser. Comme d'une enveloppe humaine dont j'avais le contrôle mais qui n'était pas la mienne. Aujourd'hui, je vois mes bras comme les miens. Il m'arrive de les regarder avec tendresse, de les aimer. Lorsque ça ne va pas, je n'ai plus de colère envers eux. Ils m'appartiennent. Je ne veux plus leur faire de mal. Je regarde mon ventre avec beaucoup moins de dureté, avec compassion quelquefois, pour ce que j'ai pu lui infliger ou ce que je lui inflige encore. Concernant mon visage, il m'a longtemps été compliqué de le rattacher à moi. Lorsque je m'entreapercevais dans un reflet ou sur une photo, je n'arrivais simplement qu'à y voir une autre personne. Une personne familière, certes, mais je ne m'y voyais jamais vraiment moi-même. À cause de cela, pendant des mois, et même encore maintenant parfois, il m'était impossible de me maquiller. Lorsque je m'y tentais, j'avais l'impression de maquiller un autre visage, et ça m'en était simplement insupportable. La dissociation a commencé lorsque j'étais toute petite. Je lui ai laissé le contrôle pour survivre, puis c'est elle qui a pris le contrôle de moi. M'en détacher est un long travail que je dois faire chaque jour. Cela ne fait que quelques mois que j'ai commencé mon traitement hormonal, pourtant ça m'a énormément bouleversée. Aujourd'hui, lorsque je croise mon reflet, je me vois parfois, et je me surprends à me trouver belle, à me reconnaître. Petit à petit, je me réapproprie mon image, je me réapproprie mon corps comme une longue conquête. Ça a commencé avec mes bras, puis mon visage, et maintenant peu à peu le reste de mon corps. Il m'est arrivé de nombreuses fois au cours de ces deux dernières années de douter de l'existence de la prétendue euphorie de genre ou de la trans joy dont j'avais souvent entendu parler. Un jour, je l'ai ressenti, de manière très brève certes, mais cela m'a rendue immensément heureuse. Venant de nulle part, je me suis simplement vue en passant devant le miroir, c'était comme une rencontre. Et je me suis dit, c'est moi. Je sais qu'il me reste encore beaucoup à faire, mais je me sens avancée. Et en avançant, je me sens aller mieux jour après jour.
Je dirais que ma transition, dont c'est trop depuis 8 mois, est une redécouverte et une réappropriation de mon corps. Pour être précise, j'ai dû accepter que je souffrais vraiment de dysphorie, à cause de ma barbe et de ma calvitie. Trigger warning dysphorie. Au pire, je me sens comme amputé ou volé d'une partie de mon corps et de mon identité. J'ai beaucoup hésité avant d'essayer une première perruque, comme s'il fallait que je sois désespéré. J'avais peur d'être perçu comme fausse et grotesque. Mais quand j'ai pu enfin essayer une perruque assez réaliste, ça a été un déclic. Comme une douche d'euphorie de genre. Enfin, je me retrouvais. Une des premières choses que j'ai faites ensuite, c'est de commencer l'épilation laser. Et quel soulagement de récupérer mon visage, de le toucher sans inconfort, d'être débarrassé des démangeaisons, et le rasage de plus en plus facile. Apprendre des gestes de soins du corps, genre épilation, gommage, hydratation, rasage, ça fait partie de mon parcours de réappropriation. La perruque est la meilleure solution, mais pas parfaite pour autant. Il y a des situations où je ne peux pas la porter, qui engendrent dysphorie et dissonance, et une sorte de situation d'outing forcé. Parfois un sentiment d'insécurité lié au caractère abrupt du changement d'apparence. Est-ce que je fétichise un peu mes seins? Je suis très enthousiaste pour mes seins naissants, mais surtout depuis que j'ai commencé le traitement hormonal de substitution. Je n'en attendais pas, ou je n'osais pas. Je vais finir par quelques mots sur ma teub. Peut-être la partie qui a le changé le plus radicalement de comportement, avec moins de libido, ou en tout cas des envies d'être excité différemment. J'ai encore plein de sentiments en suspens. Je ne compte pas chercher de chirurgie de réassignation sexuelle notamment. Je donne peut-être l'air d'hésiter, mais je suis très contente de ma teub sous oestrogène. Les érections spontanées ne me manquent pas, et du coup, c'est une autre partie de moi qui est plus en accord avec qui je veux être. C'est plus un outil et un moyen de plaisir que le demandeur de stimulation que c'était avant. Et ça me va très bien. Et surtout, je prends conscience que c'est un corps qui a un futur, que je veux l'habiter, l'améliorer, me sentir belle, le montrer, essayer des fringues, accepter de vieillir dans ce corps, mon corps trans.
Je pense que c'est une question qui est quand même vachement générationnelle, dans le sens où les générations d'avant étaient vachement confinées dans un modèle codifié avec des normes de genre très établies, faites par des médecins, cis, et en fait qui disaient aux trans, ok, vous allez aller d'un point A à un point B, et vous n'avez pas votre mot à dire. Et en fait, maintenant, nous, on sort de ça. On sort de ça avec le fait que, par exemple, l'injection est enfin arrivée en France, à travers différentes méthodes que je ne peux pas détailler ici, mais ça fait que du coup, on a la mainmise sur nos transitions. Et c'est ok si ça prend du temps, c'est ok si on expérimente, c'est ok si on change de THS, tout nous va. Et en fait, comme les médecins nous accompagnent dorénavant dans nos choix, et qu'en fait, ils ne nous guident pas vers un modèle prédéfini, mais ils accompagnent notre propre modèle, on n'est plus frustré par le fait de ne pas appartenir à une sorte de binarité chelou du genre. En fait, on est trans et on sera jamais cis, et c'est trop cool. Et genre, en fait, si tu veux avoir des chirurgies, si tu veux avoir un THS, tu peux ne pas en avoir aussi. Et du coup, le rapport qu'on a au corps aujourd'hui, maintenant, par rapport à notre génération, c'est un truc qui est totalement autodéterminé. Et c'est vachement libérateur. Ce qui fait que moi, mon rapport au corps, il est plus frustré par rapport au fait de convenir à une norme. Il est juste frustré de m'éloigner de cette liberté que j'ai acquise.